Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Il est devenu un sujet d'actualité, une nécessité, un élément incontournable. Vous avez sûrement entendu parler des ODD, Objectifs de Développement Durable. D'ailleurs, 193 pays se sont fixés d'atteindre 17 objectifs d'ici 2030. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc est sur cette dynamique à la fois environnementale et économique. Notion qui définit le besoin de transition et de changement dont a besoin notre planète et ses habitants pour vivre dans un monde plus équitable, en bonne santé et en respectant l'environnement. Quel impact géopolitique, stratégique, économique et même social le développement durable a sur notre quotidien et sur l'évolution du monde.
Mehdi 1, Ababacar Tonkara. Le podcast de la durabilité.
L'Afrique connaît un processus d'urbanisation rapide qui devrait se prolonger durant les prochaines décennies, nourri par une croissance démographique élevée. Sa population devrait atteindre 2,4 milliards d'habitants d'ici 2050. Le continent rassemble déjà plus d'un quart des villes avec la croissance urbaine la plus élevée et devrait compter donc 3 mégalopoles d'ici 2025. Dans certaines parties d'Afrique subsaharienne, le stock de bâtiments actuels pourrait être multiplié par 4 à l'horizon 2050. Il faut donc souligner que le bâtiment et plus généralement l'urbanisation se situent au cœur des enjeux économiques, sociaux et environnementaux de nos sociétés. Pour prendre le cas du Maroc, mais également au niveau mondial, selon le dernier rapport du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, le bâtiment serait ainsi à l'origine d'importantes émissions de gaz à effet de serre, soit environ un cinquième du total, tous les secteurs confondus, et ce également qui pourrait aussi doubler, voire tripler d'ici 2050. D'où donc la nécessité de nous tourner vers ces nouvelles demeures écologiques. Et pour en parler, mesdames et messieurs, nous sommes avec un éminent professeur, parce qu'il est également enseignant, mais également, il s'agit bien sûr de Zakaria Sadir, qui est aussi conseiller du gouvernement Green Building et directeur général du cabinet Alto Eco. Bienvenue, monsieur Sadir, et merci de répondre à notre invitation.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Alors, la première question que nous aimerions échanger, et tout le monde se pose également, c'est de savoir c'est quoi une construction écologique.
Alors, une construction écologique, également connue sous le nom de construction durable ou bâtiment vert, est une approche de la construction qui minimise l'impact environnemental des bâtiments, tout en maximisant leur efficacité et leur intégration dans leur environnement naturel. Quelques exemples de la construction durable, on va en premier lieu voir la conception bioclimatique. Donc, une construction bioclimatique, c'est une conception qui va intégrer des aspects liés au climat et aux conditions du site pour améliorer le confort thermique naturel, en premier lieu. Cela comprend l'orientation du bâtiment, la conception des ouvertures et des fenêtres, ou l'utilisation de l'inertie thermique des matériaux, leur poids, pour réguler naturellement la température intérieure. Il y a également dans la construction écologique ou la construction durable la partie efficacité énergétique, qui est liée à l'isolation thermique de l'enveloppe, donc des murs, de la toiture, du sol, et également le double vitrage, par exemple, et l'utilisation de systèmes techniques pour le chauffage, la climatisation et la ventilation qui ont une demande énergétique très faible. Enfin, pour compléter le tour sur l'aspect énergétique, on va privilégier l'intégration des énergies renouvelables telles que les panneaux photovoltaïques ou les panneaux solaires thermiques pour la production de l'eau chaude sanitaire. Cela permet de réduire la dépendance des combustibles fossiles. Bien sûr, dans la construction durable, il n'y a pas uniquement la partie énergie, mais également les autres aspects liés aux ressources en eau, au confort, la santé, le bien-être. Donc en ce qui concerne l'eau, on va privilégier dans la construction durable le recours à des systèmes qui ne consomment pas beaucoup d'eau, que ce soit la robinetterie, les douches, les toilettes ou autres équipements qu'on appelle hydro-économes. Après, il y a les aspects liés aux matériaux. Les matériaux ont un impact sur l'environnement, mais également, ils peuvent avoir un impact sur la santé des personnes si ces matériaux n'ont pas une qualité sanitaire optimale ou de bonne qualité. Donc, il vaut mieux, dans la construction écologique, privilégier des matériaux écologiques, locaux, recyclés ou recyclables, et également des matériaux de finition intérieure, tels que la peinture, l'enduit et autres, qui n'intègrent pas des polluants tels que les composés organiques volatiles qui sont problématiques et qui portent un danger pour la santé des personnes. Et il y a l'élément aussi confort qui est important dans un bâtiment. Bien sûr, il faut pas négliger ce volet-là. On peut économiser l'énergie, l'eau et les ressources, mais le confort et le bien-être des personnes est un élément très très important. Donc le confort acoustique, le bruit, il faut le gérer, que ce soit le bruit qui vient de l'extérieur ou le bruit à l'intérieur, la réverbération ou autre aspect. Et bien sûr, la chaleur et la fraîcheur pendant les saisons été-hiver, et également les odeurs, on peut être gêné également par les odeurs, donc l'aspect lié au confort est un élément important.
Et aussi, comme je dis par rapport à ça, il y a le cas qui nous intéresse, et qui est aussi, parce que nous sommes aussi au Maroc, c'est le cas donc du Royaume, qui aujourd'hui affiche donc l'ambition de réussir la transition vers cette construction écologique. Justement, où en est le Royaume à l'heure actuelle ?
Alors, le Royaume du Maroc a fait des progrès significatifs dans sa transition vers une construction écologique. Cela a commencé, bien sûr, il y a plusieurs années à travers le discours de Sa Majesté en 2003 pour l'intégration d'une politique de développement durable à l'échelle du territoire marocain. Et cela, ça a été traduit sur plusieurs secteurs, le bâtiment, mais également l'industrie, le transport et d'autres secteurs. On a vu le développement de l'électrification du moyen de transport, l'électrification du territoire marocain, où on frôle les 100%, mais également la promotion des villes durables, des nouvelles villes qui ont été construites dans différentes zones du Maroc, et l'intégration de la construction durable. Cet encouragement est passé à travers des incitations gouvernementales et une stratégie nationale de lutte contre le changement climatique qui a été présentée en 2014 au niveau des Nations Unies et qui a été élue comme meilleure initiative mondiale pour la lutte contre le changement climatique parce qu'elle intégrait plusieurs secteurs, les villes, l'eau, les déchets, l'industrie, le transport et d'autres secteurs. Donc elle est complètement holistique et intégrée par rapport au contexte marocain. Et le Maroc, depuis la COP 22 à Marrakech, a démontré son leadership africain, mais également son exemplarité internationale dans la stratégie et la politique nationale de lutte contre le changement climatique. Donc, il y a un aspect législatif qui a été mis en place, notamment avec la réglementation thermique de la construction au Maroc, si on se focalise sur la partie bâtiment. Mais on peut parler aussi de l'industrie ou d'autres secteurs. On va rester dans le bâtiment pour aujourd'hui. Et donc, cette réglementation thermique de la construction au Maroc incite à la réduction de la demande, donc les besoins en chauffage et climatisation pour l'instant. Mais d'autres postes tels que l'éclairage et les équipements vont venir dans l'évolution de cette réglementation. Malheureusement, la réglementation, elle est très bien étudiée, elle est assez exemplaire comparée à des réglementations internationales, françaises ou d'autres pays. Ce qui lui manque aujourd'hui, c'est le contrôle sur le terrain, le contrôle sur chantier. Il y a des efforts qui sont en étude ou des dispositions qui sont en étude à travers l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique pour instaurer un contrôle sur chantier à travers des bureaux de contrôle ou d'autres acteurs de vérification pour s'assurer que tous les acteurs de l'acte de bâtir respectent cette réglementation.
Et en ces périodes également difficiles, comme vous l'avez souligné un peu tout à l'heure, plutôt marquées par le problème donc, du stress hydrique, vous parlez donc de généralisation de la construction plutôt éco-friendly. Est-ce réellement une solution viable pour atténuer ce problème ?
À mon sens, c'est la solution viable parce que elle intègre plusieurs étapes de la réduction des besoins en eau pour atténuer le problème du stress hydrique dans notre pays. Cela commence par, comme je disais, l'utilisation d'équipements qui ne demandent pas beaucoup d'eau, tels que les robinets, les douches et autres, mais également le recours à des eaux qui ne sont pas forcément potables et nécessaires pour des besoins en arrosage. L'eau grise, par exemple, des douches et des lavabos, peut être utilisée pour répondre aux besoins d'arrosage. L'eau pluviale, également collectée, peut répondre à cet élément-là. Et plusieurs villes au Maroc, aujourd'hui, intègrent ce type de technologie, notamment à Rabat, à travers le réseau Reuse, qui offre à des développeurs immobiliers, par exemple à Rabat, la possibilité de recourir à l'eau non potable ou l'eau issue des stations de traitement d'eau. Il y a également la partie paysage et la partie plantation. On sait que l'agriculture est un secteur qui demande énormément d'eau. Et donc, de la même manière, le choix des plantes, donc notamment à travers des paysagistes dans le cadre du bâtiment, des plantes locales qui résistent à la sécheresse et qui ont un besoin en eau qui est plus faible que d'autres plantes, est un élément qui permet de réduire la demande à la source. Une fois on réduit cette demande, on peut passer au système d'arrosage qui peut être de type goutte à goutte. Donc il faut faire attention de ne pas abuser de goutte à goutte, notamment alimenté par le photovoltaïque. Mm-hmm. Donc de l'utiliser uniquement en période de besoin, de réel besoin en arrosage.
Concernant aussi, qui parle aussi de durabilité, parlons également d'environnement social et de changement climatique. Aujourd'hui, est-ce que les enjeux climatiques et environnementaux sont pris en compte dans le domaine de l'habitat où également vous êtes spécialisé?
Oui, aujourd'hui, la construction durable est une réponse aux enjeux de réchauffement climatique et également social, parce que la réduction de l'impact de la construction qui, aujourd'hui, le bâtiment génère près de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Mmh. Donc c'est là-dessus qu'il faut intervenir pour réduire son impact sur l'environnement. Donc à travers, comme je disais, l'économie d'énergie, l'économie de ressources en eau, mais également au sol et d'autres ressources naturelles, et le recours à des solutions d'efficacité énergétique optimales. Le bâtiment peut être lui-même un puits carbone, c'est-à-dire qu'il permet de capter le CO2. Mmh. Cela passe par exemple à travers des systèmes constructifs tels que le bois, qui sont des puits carbone, qui permettent de réduire les émissions et réduire l'impact du bâtiment sur son environnement. Et il y a également une notion d'adaptation qui est importante. On reconnaît aujourd'hui à l'échelle internationale que la température monte et on le ressent à chaque saison. Mmh. On a une perturbation assez importante cette année, les années passées, et ça risque d'être aggravé les années à venir. Il y a une notion qui est importante à intégrer dans la construction durable, qui est déjà pensée, c'est d'anticiper les évolutions des températures dans le futur de manière à réduire l'impact sur le bien-être et la santé des personnes, notamment quand les chaleurs vont être un peu plus importantes à l'extérieur.
Et quels sont aussi donc les avantages économiques d'une construction durable? Parce qu'aujourd'hui, vous en parlez, mais on aimerait aussi savoir, par rapport aussi au plan économique et tout, quels sont aujourd'hui ces avantages?
Oui. Alors, les avantages sont en premier lieu pour, bien sûr, les utilisateurs qui sont impactés par le coût des factures d'eau et d'énergie. Donc, une construction durable permet en moyenne de réduire d'au moins 30% le coût de l'énergie et le coût de l'eau. C'est les premières dispositions architecturales et techniques. On peut aller au-delà. Après, il y a d'autres avantages gouvernementaux, donc à travers la législation, que ce soit sur les crédits bancaires, par exemple. Plusieurs banques marocaines, accompagnées par des banques internationales, des fonds d'investissement internationaux, propose des outils ou de crédit ou des solutions de crédit avec un taux de crédit qui est plus faible et bonifié. C'est également le cas pour les promoteurs immobiliers, donc de réduire également l'impact de l'intégration des solutions d'efficacité énergétique sur le coût de la construction. Donc ils ont la possibilité de disposer de crédits bonifiés. Et ils ont également aujourd'hui au Maroc plusieurs communes, notamment à El Chouk, El Fida, El Hassani et d'autres quartiers, particulièrement à Casablanca, proposent des incitations urbanistiques, c'est-à-dire qu'ils ont une surface supplémentaire qui peut être construite en forme adiabatique, donc en recul, en toiture, ce qui réduit ce qui augmente leur quantité de mètres carrés constructibles sans trop impacter la structure portative du bâtiment. Donc ce type de dispositif encourage les promoteurs à s'orienter vers la construction durable et peuvent avoir un impact positif sur le coût d'achat ou le prix d'achat d'un bien.
Vous nous parlez de construction durable, sachant bien évidemment que ça a un prix, les citoyens lambda que nous sommes, parfois même vivant même dans les zones les plus reculées du monde, et aux revenus moyens, peuvent-ils espérer un jour bénéficier de ces constructions écologiques?
Alors, la construction écologique ne date pas d'aujourd'hui, et ce qui est marrant, c'est que nos ancêtres ont toujours intégré ce bon sens de construire avec des matériaux locaux, recyclables et naturels, qui sont les meilleurs, et on le voit dans le patrimoine bâti au Maroc à travers les Tsba, qu'on nous avons, et les médinas. qui datent, qui sont des millénaires, des médinas millénaires, Marrakech, Fès et d'autres villes du Maroc. C'est encore durable et c'est le meilleur exemple qu'on peut prendre. Et aujourd'hui, les architectes, les concepteurs commencent à revenir à ce type de construction. Et donc, l'impact pour un acquéreur ou un citoyen lambda, si on s'oriente dans le bon sens vers des constructions comme ce que faisaient nos ancêtres, par exemple, revenir à la construction en terre, et on commence à voir, par exemple, à Casablanca, des bâtiments construits en terre, ça, le coût n'est pas forcément plus élevé que d'autres modes constructifs contemporains, industrialisés. Donc on peut déjà réduire le coût à la source en s'orientant vers des produits locaux, des produits durables et écologiques. Ça, c'est en termes d'investissement sur la construction elle-même. L'intégration des solutions technologiques telles que le photovoltaïque, l'isolation ou les équipements de chauffage, climatisation à faible consommation énergétique est peut-être coûteux au début, lors de l'investissement, mais sa rentabilité et son retour sur investissement est rapide. On parle de 4 ans, 5 ans, jusqu'à 6 ans pour le cas du panneau photovoltaïque, qui sont aujourd'hui, dans le climat marocain, très très intéressants à intégrer dans la construction des bâtiments. Et on le voit, il y a les centrales photovoltaïques à l'échelle nationale qui ont des capacités assez importantes, mais il y a également, on voit de plus en plus, d'habitats intégrer les panneaux photovoltaïques et les panneaux d'eau chaude sanitaire, solaire, pour répondre aux besoins énergétiques du bâtiment.
Et pour répondre bien évidemment aux besoins énergétiques du bâtiment, mais aussi pour répondre à ces besoins écologiques et aussi durables tels que nous l'avons aujourd'hui abordé avec cet éminent enseignant et directeur encore une fois du cabinet, directeur général plutôt du cabinet Alto Eco, par ailleurs aussi conseiller du groupement Green Building, Zakaria Sadik. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation, mais aussi de nous avoir éclairé sur aujourd'hui ce besoin écologique qui se présente à l'ère du développement durable.
Merci à vous, merci de votre accueil.
Merci encore, chers amis, vous qui nous suivez dans la durabilité de votre confiance renouvelée. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Au plaisir.